Radio Altaïr, la voix des esprits éclairés. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission sur Radio Altaïr. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage dans le temps et dans l'espace. Un voyage olfactif, vibrant, guidé par les parfums de jasmin, de fleurs, d'oranger et les embruns de l'Atlantique. Imaginez, vous ouvrez une malle oubliée et vous tombez sur les vieux agendas de votre mère. Soudain, les souvenirs d'une enfance marocaine enfouie refont surface. C'est le point de départ de Tendre Maroc, le nouveau roman d'Emmanuel de Boisson, publié chez Calman Lévy. Après avoir frôlé la mort, notre invité a éprouvé le besoin viscéral de retourner sur les traces de sa jeunesse, les années 60 et 70 à Mohamedia, entre les privilèges d'une famille bourgeoise, les premiers émois amoureux, mais aussi la douloureuse quête d'amour face à une mère fascinante, mais désarmante de froideur. Un récit solaire et intime qui raconte aussi l'éveil d'une vocation, celle d'une petite fille qui découvre l'écriture pour s'émanciper. Emmanuel de Boisson, merci d'être avec nous. Dans votre livre, vous écrivez que le Maroc n'est pas seulement un décor, mais un personnage à part entière. Alors, pour commencer cette émission et nous plonger avec vous là-bas, quelle est la toute première image qui vous vient en tête lorsque vous repensez à la plage de Mohamedia?
Ce qui me vient comme ça, sans réfléchir, c'est que je vois ma mère sur le sable, en train de se mettre de l'huile à bronzer Monoï.
Cette
huile qui sentait le coco, que les femmes se mettaient et qu'elles nous en tartinaient aussi le dos. Et en fait, ça ne protégeait pas du tout du soleil. Bien au contraire, on avait quand même beaucoup de coups de soleil. Donc voilà, ça c'est une image et une odeur surtout, parce que ce livre, comme vous venez de le dire, ma chère Angélique, avec beaucoup de justesse, c'est un livre essentiellement sensoriel, avec beaucoup d'odeurs, de couleurs, voilà. Et puis les vagues aussi, on est dans l'Atlantique, là, les vagues sont fortes. Mohamedia. Donc il y avait des rouleaux. Et ces rouleaux, écoutez, on passait des heures avec mes frères et sœurs à sauter dedans, à se laisser porter par les vagues.
C'est génial, c'est des moments incroyables. Quelle est la meilleure heure pour sauter dans les vagues d'ailleurs là-bas?
Écoutez, on y allait à toutes les heures du jour et de la nuit presque, surtout à l'heure du déjeuner, ce qui est la pire heure pour aller à la plage. Mais à cette époque, on s'en fichait. Hein. On allait souvent. C'était pas attention en fait à se dire on fait attention au soleil, on y va en fin d'après-midi, pas du tout. On y allait tout le temps. Et en particulier aussi, on allait à une piscine, la piscine du casino, qui était un endroit privilégié où nous étions les hôtes, vraiment les seuls invités par le créateur des casinos du Maroc, dont le fameux casino de Marrakech, qui s'appelait Monsieur Baucher.
Et il y a des souvenirs immuables. Hein.
Voilà, des souvenirs immuables. Et je me revois sur une bouée en forme de Fanta, d'Orangina. Voilà, c'est des souvenirs en train de glisser majestueusement sur l'eau totalement claire de cette piscine.
S'il y avait une seule odeur, en dehors de celle du Monoï, sur ces souvenirs de plage de Mohamedia, ce seraient lesquels?
C'est l'odeur des beignets qui me revient. Il y avait des petits vendeurs de beignets. Alors, vous savez, ces plages au Maroc sont, en fait, nous allions à une plage quasi privée qui était devant un hôtel qui s'appelait l'hôtel Miramar, que beaucoup de gens connaissent. Le Miramar est célèbre. Et donc, nous étions séparés par des petites barrières de la plage publique. Mais dans la plage publique, alors il y avait énormément de monde, beaucoup de Marocains, surtout des bandes de garçons aussi qui jouaient au ballon pendant des après-midi entières, des familles qui venaient pique-niquer.
On y est là. Hein.
Nous n'y allons pas. Par contre, il y avait des vendeurs de beignets qui passaient ou de glace.
Chouchou est là. Nous, on avait ça quand on était petits sur la plage de Palavas. Hein.
Voilà. Et ma mère ne cédait pas souvent parce qu'elle disait que ces glaces n'étaient pas très fraîches.
Ah, oui.
C'était des Miko, chocolat glacé, Miko, beignet, voilà. C'est ça. Alors, cette odeur de sucre me revient.
Dans votre précédent livre, Emmanuel, vous racontiez avoir frôlé la mort après un accident cardiaque. Est-ce l'urgence de vivre qui vous a poussé à ouvrir cette malle au souvenir et à écrire Tendre Maroc?
Pas tellement l'urgence de vivre qu'une certaine vulnérabilité. Parce que je suis sortie de cette expérience douloureuse et longue. Donc, comme vous le dites, il y a eu un arrêt cardiaque le 7 février 2022. mon cœur s'est arrêté, mon compagnon m'a fait un massage cardiaque qui m'a sauvée avant l'arrivée des pompiers. Puis il y a eu le coma, l'hôpital, l'hôpital Cochin, la rééducation. J'ai écrit entre-temps un livre sur cette histoire qui s'appelle Un coup au cœur, qui était paru chez Kahneman Lévy. Mais malgré tout, malgré le succès aussi de la pièce de théâtre qui a été adaptée du livre, je suis restée vulnérable. Et donc tout me touche, tout m'ébranle, les blessures, les remarques, les contrariétés de la vie. Et j'ai eu besoin de me réfugier dans mon enfance comme un paradis perdu, de me replonger dans ces sensations. Il se trouve effectivement que j'ai hérité d'une petite maison près de Fontainebleau, dans un village qui s'appelle Férissy, où j'ai gardé, que ma mère avait habité, où toutes ses affaires y sont encore, y compris ses agendas, ses vêtements et tout. Et donc je me suis remise à lire ses agendas, et là, elle notait tout, et surtout ses cahiers, puisqu'elle donnait des cours à des jeunes filles marocaines, elle donnait des cours de morale, avec plein d'anecdotes. Alors, c'était pour les aider à s'émanciper. Et elle les préparait beaucoup, donc tous ces cours sont là. Et ça m'a beaucoup touchée. Je me suis rendu compte à quel point elle attachait de l'importance à ce qu'elle appelait sa mission auprès des Marocains.
Et alors, est-ce que, en tant que maman, puisqu'on parle après d'une certaine froideur, d'une certaine distance, est-ce qu'elle avait plus de lâcher prise, elle était plus libérée avec ces petites jeunes femmes marocaines qu'elle aidait à s'émanciper qu'avec les codes parents, enfants, vis-à-vis de vous, par exemple?
Libérée, je ne sais pas, mais en tout cas, elle passait beaucoup de temps avec ces jeunes filles, et pas seulement avec elles, elle avait aussi créé un dispensaire pour des bébés, et elle faisait des distributions de nourriture. C'est-à-dire qu'il y avait énormément de gens qui n'avaient pas assez à manger dans ces bidonvilles, un immense bidonville qui était en haut de la ville de Mohammedia, à El Lalia. Et elle y passait des heures, elle distribuait de l'huile, du pain de sucre, du thé à toutes les femmes. Elle leur demandait de venir au dispensaire quand elle voyait qu'elles avaient un bébé malade. Et je pense que c'est ce temps et sûrement cette attention, ce respect, elle avait beaucoup d'empathie pour tous ces gens qui me touchaient d'ailleurs beaucoup, mais se rendait pas compte que pour nous les enfants, on avait l'impression qu'elle, qu'elle nous enlevait un petit peu de l'amour qu'elle aurait pu nous porter à nous. Et elle m'emmenait là-bas. D'ailleurs, je le raconte dans le roman. Elle m'emmène dans le bidonville. Et pour moi, c'est elle paraît très sûre d'elle, moi je la suis, et il y a plein de gosses, des mouches, c'est sale, ça sent mauvais partout, les ruelles sont pleines d'espèces de baraquements insalubres, et elle me fait rentrer dans une de ces maisons en tôle, et il y avait une mère de 12 enfants qui était là, donc elle se rendait pas compte qu'à quel point c'était un choc pour nous. Et toute cette misère et cette sensation qu'elle aidait la misère du monde, qu'elle porte un peu comme Mère Teresa, la misère du monde sur ses épaules, pour nous c'était lourd. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti étant petite. C'était essentiel qu'il fallait nous culpabiliser quelque part d'être trop égoïste, de penser à nous. Et c'est normal qu'un enfant soit égoïste. Et donc, moi j'ai toujours été taxée de filles qui ne s'occupent pas assez des autres. C'était un peu le leitmotiv chez nous. Les autres d'abord, on peut dire que c'était un peu sa devise.
D'accord. Et est-ce que ça n'a pas été justement un déclic pour faire pareil comme un modèle, ou se dire que vous aussi, vous portez le flambeau de cette ouverture et de cette aide fraternelle, en fait, c'est l'aide fraternelle?
Un déclic pour que moi, je me suis lancée dans le social aussi, bien sûr. Bien sûr que j'ai suivi les traces de ma mère. Beaucoup de filles, de garçons et de filles font ça. Culpabilisée que j'étais, elle et mon père non plus ne m'autorisaient pas à faire ce que j'aimais, c'est-à-dire l'écriture. Très tôt, j'ai voulu être écrivain, très tôt, j'ai voulu être comédienne. Non, ce n'était pas des métiers, c'était du narcissisme. Il fallait toujours se rendre utile.
Alors,
donc je l'ai fait. J'ai beaucoup travaillé auprès d'immigrés, auprès de de femmes en difficulté, en faisant aussi beaucoup d'animations, de formations, bien sûr, pendant des années.
On va y revenir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que, Emmanuel, vous nous racontiez comment ça s'est fait quand vous avez, du côté un peu magique, quand vous avez ouvert cette malle et que vous avez vu les agendas. Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? Est-ce qu'il y avait des odeurs qui remontaient? Est-ce qu'il y avait de la poussière? Est-ce qu'il y avait une inquiétude? Est-ce qu'il y avait une curiosité? Est-ce que c'était une manière de mieux redécouvrir votre mère qui avait écrit ça de manière, j'allais dire, très personnelle? Est-ce que ça comment ça s'est passé pour vous?
La découverte de ces agendas que je n'osais pas relire, hein, c'est des petits agendas mignons où elle faisait, c'était plutôt des notes, des listes. Ma mère a été une pro de listes. Elle en faisait toujours quand elle faisait ses courses, quand elle faisait ses menus, tout était organisé pour elle. C'était une femme de tête qui prévoyait. On était 5 enfants et tout devait fonctionner. Les habits de classe achetés 6 mois à l'avance, tout était prévu. Il n'y avait pas de place pour l'imprévu. Et elle était paniquée d'ailleurs quand tout d'un coup, il y avait un retard, un problème qui était inattendu. Bon. Et donc, j'ai découvert dans ces carnets plein de petites choses qui étaient très touchantes, qui sont de l'ordre de sa vie, non pas intime, parce qu'elle ne la livrait pas, c'était quelqu'un d'assez pudique, mais des petites clés qui prouvent, en tout cas, une chose qui est claire, c'est que j'ai retrouvé toutes mes lettres d'enfant aussi, dans une malle.
Oh, c'est mignon, elle avait tout gardé.
Et elle avait tout gardé, vraiment, et ça, pour moi, ça a été un geste, un signe d'amour.
Ah bah oui.
Qu'elle ait tout gardé comme ça, aussi méticuleusement. J'ai tout, depuis l'âge de 4 ans jusqu'à 12-13 ans, elle avait tout. Et puis, donc, il y avait, j'ai senti beaucoup de choses. Les rencontres qu'elle faisait avec le Pacha, par exemple, quand elle prenait des cours d'arabe aussi, elle le notait. Elle notait tout ce qui était fait religieux et éventuellement les habits qu'elle nous achetait, elle notait ce qu'il fallait faire.
Elle vous faisait des petites capsules mode?
Voilà, des petites capsules. Donc, j'ai plein de les petits menus aussi, donc des odeurs revenaient petit à petit. Je la revoyais dans la cuisine. Et disons que c'est par le biais de beaucoup d'odeurs, de sensations, que je suis arrivée à retrouver cet univers. Je la revoyais dans son cafetan chez le Pacha. Là, c'est par une odeur de jasmin, fleur d'oranger plutôt, comme les cornes de gazelle. Je la retrouve que...
J'ai l'odeur dans le nez, rien que vous écoutez,
voilà.
Emmanuel.
La fleur d'oranger, c'est merveilleux, c'est un peu sucré, et donc on retrouve ça. Le jardin était... En fait, le personnage principal, c'est le jardin. Un jardin qui était dessiné par elle, avec un coin un peu forêt, avec un petit chemin qui circulait partout pour nous en vélo.
J'aime bien parce qu'Emmanuel nous fait des gestes en même temps. Hein.
Un vélodrome, une espèce de grande bassine, comme une pelouse, scène de théâtre. Et donc, on passait notre temps à jouer, à créer, à monter des spectacles.
Comme dans Les Quatre Filles du Docteur March.
Exactement. Et à monter des spectacles de danse et de théâtre. Du coup, moi, j'ai adoré le théâtre. Ma sœur, c'est devenue danseuse. Et ça développait beaucoup notre imaginaire. Mmh. On passait notre temps à jouer dans ce jardin magnifique, plein de recoins secrets avec des odeurs d'oranger, des glaïeuls, du mimosa, des trous qu'il fallait boucher, des odeurs de pain. Et donc, on était un peu privilégiés, comme on disait tout à l'heure, dans un monde... belle maison avec ce beau jardin, mais à l'extérieur il y avait des bandes de garçons qui nous regardaient, qui jetaient des cailloux sur les chats, les oiseaux, qui lançaient des pierres. Donc c'était un monde très contrasté.
Donc il y avait ce sentiment d'être dans une bulle protégée, et à côté il y avait un monde en parallèle qui était un peu plus dur.
Oui, une conscience permanente du danger extérieur.
Dans l'aube bleue, j'allume le poste. Un fil de voix traverse la fenêtre. Elle murmure au bord du silence des noms perdus, des signes secrets. Sur la bande, un souffle ancien danse. comme un chemin sous la poussière. Et dans le noir, mon cœur avance, guidé par des feux de lumière. Dis-moi si tu m'entends, au-delà des murs. Dis-moi si tu m'entends, quand tout devient obscur. Des mains levées dans la fumée, et chaque phrase fine et divine me rendait plus vivant, plus vrai. Dis-moi si tu m'entends, au-delà des murs. Dis-moi si tu m'entends, quand tout devient obscur. Dans le grain d'or de l'autre bord, je suivrai ta ligne, ta clarté jusqu'à l'aube, jusqu'à l'été. La voix des esprits éclairés jusqu'au bout de la j'arrive là-bas.
Donc le cœur du récit de Tendre Maroc, Emmanuel de Boisson, c'est Blanche, votre maman, insaisissable. Et votre personnage, c'est la petite Emma qui court après l'amour de sa maman. Et vous décrivez Blanche comme une femme solaire, très investie pour les autres, mais distante avec ses enfants. Parce qu'elle aurait pu être aussi très proche de vous. Et est-ce que ce livre est une tentative de la comprendre, de lui pardonner, ou simplement une réminiscence qui remonte et qui vous aide à repartir sur des bases plus solides, plus tranquilles?
Alors d'abord, l'écriture n'est jamais une thérapie, il faut le préciser.
C'est pas une catharsis?
Non, je mets pas ça sur le même plan. C'est un travail artistique, un travail de style, c'est un travail de construction. Surtout, c'est un travail à l'écriture pour moi, c'est un travail de style avant tout qui compte. C'est un travail de construction, il y a un rythme, il y a des phrases qui résonnent, des images, des métaphores, il y a beaucoup de travail d'écriture. Donc c'est une tentative de réconciliation, oui, oui et non. En fait, je ne me suis jamais vraiment séparée d'elle. Elle est morte, mais en même temps, nous avions eu toujours un lien par la conversation. Une conversation qui ne s'est jamais arrêtée, puisque je passais des heures à l'écouter, à lui parler. Donc, il y avait quand même... Alors, elle se plaignait beaucoup, bien sûr, parce qu'elle avait toujours quelque chose qui n'allait pas. C'était une femme... comme des femmes qui ont vécu la guerre, avec des peurs, des angoisses, des manques importants affectifs, comme beaucoup de femmes de cette génération.
Et donc est-ce qu'elle avait des manques physiques? Parce que moi, je vois une de mes grand-mères, elle avait le manque des élastiques. Mais et donc, à son décès, on a retrouvé des tiroirs remplis d'élastiques de toutes les couleurs.
Alors, ma mère, sa phobie, c'était les animaux à plumes, les poules, les pigeons. Elle en avait la phobie et il fallait toujours les lui écarter quand on se promenait. Au Maroc, c'est pas facile parce qu'il y en a partout des poules dans les souks. Donc voilà, vous dites qu'elle était solaire, je dirais pas solaire, c'est une femme qui avait beaucoup d'élégance, de classe, pour qui le paraître était très important. Elle recevait très bien, elle était impeccable, elle nous disait d'ailleurs de bien nous présenter. Quand on avait
un petit peu comme à la cour royale où, vous savez, dans certaines grandes familles, oui. Où il faut que les enfants soient des modèles, ils soient capables de tout faire.
Voilà, un peu, on était tous habillés pareil, les 5 enfants. Donc c'était vrai qu'elle était fière d'avoir tous ces enfants là et qu'on était là un petit peu comblé sans doute un manque. Et je pense qu'elle a été très très heureuse. En particulier avec mon plus jeune frère, avec qui elle était beaucoup plus tendre, je crois, qu'avec nous, les aînés, où elle essayait de nous éduquer le mieux possible. Hein, mais c'était une éducation qui était essentiellement pratique. Je sentais qu'elle avait, oui, effectivement, des manques. Mais quand on est enfant, on ne se rend pas compte. On aime sa mère, un point, c'est tout. On fait tout comme je le faisais pour qu'elle nous aime encore plus.
Marie.
Elle manifestait pas beaucoup d'affection, comme voilà une femme de cette époque pudique. Elle passait pas tellement, pas de petits câlins, pas de, c'était pas ça. Aujourd'hui on dit à un enfant, mon petit cœur, mon amour, c'est jamais ça. Je n'ai jamais entendu ça.
Est-ce qu'il vaut pas mieux finalement des preuves tangibles au quotidien, plutôt que des mots qui parfois glissent dans les oreilles mais ne restent pas?
Écoutez, moi je pense que trop aimer les enfants, aujourd'hui on dit qu'il faut les aimer énormément et tout le temps avec eux, c'est pas forcément un cadeau. En tout cas moi je pense que elle nous a élevés avec une certaine rigueur et nous sommes avec l'idée qu'il fallait que nous soyons indépendants, heureux, c'était en plus, hein, le bonheur en plus, en prime on va dire. Mais l'indépendance, et finalement, moi, je me suis construite autour de ce manque, autour de cette mère qui, finalement, elle, construisait des projets. C'est plus le modèle que représentent les parents qui va compter. C'était une mère qui agissait. Quand elle démarrait un projet, elle allait jusqu'au bout. Elle était dans l'action. Jamais, bon, elle ne gagnait pas sa vie, parce qu'elle était une femme qui ne travaillait pas dans le sens...
En fait, elle travaillait encore plus, quoi.
Mais elle travaillait encore plus, effectivement, par du bénévolat sans arrêt. Elle est arrivée à Mulhouse aussi, elle n'a pas arrêté de travailler, de s'occuper de tous les immigrés qu'elle pouvait rencontrer. Donc, c'est un modèle, voilà, je dirais. Une solidité, on va dire, pour moi. Et maintenant, quand je la vois, quand je me souviens d'elle, et c'est plutôt ça qui me reste, ce modèle de femme qui, ne s'apitoyait pas, avançait, organisait, agissait.
Voilà. Elle vous a donné aussi une force intérieure, dans laquelle vous avez puisé quand vous avez eu votre problème cardiaque. Le fait que vous ayez assumé avec beaucoup de résilience, on va dire ça comme ça, et vous vous êtes replongé dans la vie aussitôt.
Oui, alors là, pour le problème cardiaque, je me suis un peu laissée porter aussi. J'étais très bien à l'hôpital, je dois reconnaître. Je me sentais très entourée. C'était un moment, finalement, même si c'était dur, j'en revenais pas de vivre à nouveau, parce que j'avais l'impression d'avoir traversé quand même la mort. Hein. Ce que j'ai fait d'ailleurs, parce que j'ai fait une expérience de mort imminente qui était assez extraordinaire. Mais... Et je voulais prouver à tout le monde, d'ailleurs, que j'avais toute ma tête. Parce que les gens se posaient des questions, se disaient... la plupart des personnes qui ont des problèmes cardiaques s'en sortent avec des séquelles. Des problèmes de mémoire, des problèmes de motricité. Et moi, je m'étais vraiment... Quand j'ai compris que les gens autour de moi se posaient la question, je me suis donné ce défi. C'est en partie aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, pour bien leur prouver que j'avais bien toute ma tête. Mais il y a eu
Important,
que j'allais m'en sortir.
C'était important de prouver quelque chose ou simplement vous pouviez vous savoir que vous aviez toute votre tête et c'était déjà pas mal. Pourquoi prouver à tout prix?
Si, je me suis sentie obligée de prouver et aussi de récupérer parce que je suis sortie de l'hôpital, je pouvais pas marcher.
Il y a un temps pour que le trajet neuronal se refasse.
Oui, alors il a fallu réapprendre. Il a fallu aussi que j'avais cette angoisse aussi de la fraction d'éjection cardiaque, et un terme technique, mais qui veut dire qu'il y avait une partie du cœur nécrosée. Il fallait la revasculariser en faisant des exercices cardio. Et ça, je suis donnée à fond à ça pour retrouver un cœur voilà, qui soit bien. Et je suis bien arrivée. Alors, elle m'a sans doute aidée, oui, dans tout ça, bien sûr. Bien sûr.
On va parler un peu du studio d'écriture, parce que dans cet éveil, vous avez eu un éveil, un éveil artistique, où vous avez su très tôt, en fait on sait très tôt ce qui nous plaît quand on croise un événement, un livre, quelqu'un qui est sur scène, ou une rencontre, une main tendue, hein, quelque chose qui vient faire un déclic. Et vous, c'est à 11 ans. À 11 ans, Emma lit le journal d'Anne Frank et c'est un choc absolu. Pourquoi ce livre a-t-il agi comme un déclic pour la jeune fille que vous étiez ?
J'étais une petite jeune fille solitaire, avec timide, sans amis.
Et là... Ça a changé depuis, hein ?
Non, je suis restée un peu comme ça au fond.
Ah oui ?
Oh oui, finalement j'aime beaucoup être seule. J'ai quelques amis, mais pas beaucoup. Et... J'ai découvert ce journal, pour moi c'était une révélation de voir qu'une fille de mon âge pouvait se livrer sur le papier de cette façon-là, totalement impudique, de raconter toutes ses émotions, toutes ses angoisses, les problèmes qu'elle avait avec sa famille, etc. Et je me suis dit, mais on peut y aller, quoi.
Voilà. Je vous ai entendu justement dire une fois écrire, c'est... On se libère de la pudeur, on y va... Et on dit ce qu'on a à dire. C'est en fait une grande vulnérabilité aussi d'écrire.
Oui, moi je pense qu'un écrivain ne peut pas être pudique. Ou alors vraiment, il faut faire un autre métier. Oui, je pense que ce soit à travers des personnages ou directement. Si on ne livre pas le fond de soi, donc justement, tous ces petits tas de secrets qu'on a en nous et la part d'ombre surtout qui nous habite, on ne peut pas se dire écrivain si on ne le fait pas, si on ne livre pas justement ses blessures et ce qui vous a fondamentalement formé, ce qui est toujours là en vous.
Et c'est un partage intime en fait.
Oui, mais on peut rentrer dans la peau d'un criminel et le défendre aussi quand on est écrivain. Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans le bien et le mal à ce moment-là. Prenez Dostoïevski, prenez les grands écrivains. On peut comprendre l'humanité, sonder les âmes dans toute leur noirceur pour y déceler une part de sincérité, une part de quête de rédemption. Éventuellement, c'était le grand sujet de Dostoïevski. Dans Crime et Châtiment, mais voilà, l'écrivain creuse ces zones-là, et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai pas été jusque-là, pour l'instant, un peu quand même, dans certains livres, mais...
Lesquels ?
Bon, j'étais dans ces livres, j'ai fait toute une série de romans historiques, où vous avez des personnages un peu noirs aussi, qui sont, par exemple, je prends ça, Madame de Montespan, et l'affaire des poisons. Donc là, on est vraiment au cœur de tout ce qui peut être horrible quoi, pour une femme, c'est-à-dire de manipuler son amant en espérant que ça va lui donner regain de vaillance parce qu'il prend de certains produits. Ou même elles allaient jusqu'à faire des vestoirs. Bon voilà, par exemple, je donne cet exemple-là, mais j'en ai d'autres.
le podcast, on aime bien, nous, savoir comment ça se passe, les coulisses de la création. Et comment s'est passé le processus de l'écriture de ces livres? Est-ce que les souvenirs sont revenus d'un bloc? Est-ce que c'était un petit souvenir qui en a amené d'autres? Est-ce que c'est, vous vous êtes aidé d'un souvenir olfactif, par exemple, mettre de l'eau de fleur d'oranger sur un mouchoir, et enfin, ça peut être respirer une odeur particulière, mener une enquête auprès de proches qui sont encore qui gardent une certaine mémoire des événements. Comment ça s'est passé pour vous, Emmanuel de Boisson?
Alors, le processus de création est complexe. Je dirais que c'est d'abord, bien sûr, des sensations, un peu comme Proust. Moi, mon maître, c'est Marcel Proust. Je le lis et le relis. Et donc, c'est lui qui me donne les clés à partir du moment où vous avez... lui, par exemple, c'était quand il a pris son pied dans une dalle. À un moment, il se souvient. Ou c'est la petite Madeleine. Moi, j'ai eu d'autres objets, d'autres odeurs qui m'ont ouvert un monde. Il y a se mettre en état de rêve éveillé, c'était très important, ce que faisait beaucoup Proust, justement.
Alors, c'est quoi le rêve éveillé?
Vous êtes dans un état de calme intérieur profond et vous laissez venir les images. Vous laissez, ça peut être dans votre lit ou ça peut être quand vous vous promenez, ça peut être... Et beaucoup d'idées, moi, me viennent au moment où j'y pense le moins. Elles arrivent, de souvenirs. Et donc, on a, en fait, un grenier de la mémoire extraordinaire. Et puis, il y a aussi la part d'imagination. Il y a eu des scènes que j'ai reconstruites. Pas tout se souvenir exactement de tout. Et donc, par exemple, Mehdi, ce petit personnage, c'était un garçon de ma classe... certes charmant.
Vos premiers émois amoureux.
Oui, c'était un amour amoureux que j'avais pour lui, mais ça n'a jamais été aussi loin. J'ai imaginé cette romance avec Mehdi et je me suis servi de certaines scènes que j'ai vécues, mais pas seulement. J'ai recréé des scènes sur le port, je les ai réimaginées, je me suis remise à la place quand j'étais dans cet endroit, de ce que je pouvais voir, sentir... Donc il y a plein de pistes qui mènent ensuite à la création, qui sont l'imagination, les sensations, les de toutes sortes, l'état de veille. Et
est-ce que ça vous a donné du bonheur, cette écriture?
Mais il n'y a rien de plus jouissif que de retrouver des sensations d'enfance. Rien, je trouve que c'est un plaisir à nul autre pareil quand tout d'un coup surgit du fond de sa mémoire, alors qu'on ne s'y attend pas, un souvenir très précis tel qu'il était. Par exemple, quand j'étais là devant ces glaïeuls qui grimpaient comme ça sur une espèce sur la haie, je les revoyais, je me revoyais mettre mon nez à l'intérieur de ces fleurs pour humer leur parfum délicieux. La sensation aussi très nette qui m'est revenue quand je marchais sur des poutres au-dessus du patio, avec cette espèce d'insouciance qu'ont les enfants, qui prennent des risques fous.
Oui,
si nous
vrai.
Étions tombés, on serait morts. Ce serait fracassé.
Oui.
Alors, on avait un toit plat, donc on montait absolument partout. Mais c'était de la folie.
C'est vrai.
Bon, voilà. Donc ça, cette sensation-là, elle m'est revenue telle qu'elle. Ça, c'est... Oh, vous dites vraiment, c'est comme si tout d'un coup vous pouviez remonter le temps. C'est la même chose. C'est le bonheur de remonter le temps et de se dire que sa vie n'a pas été inutile puisque de toute façon, vous retrouvez ce temps perdu. Voilà, ça, c'est le bonheur.
Alors, cette idée-là, comme ça, ce souvenir de marcher sur les planches et de j'allais risquer sa vie sans s'en rendre compte. Moi, quand j'étais petite, j'étais à Carnon. Et à Carnon, il y avait des rochers avec les pêcheurs au bout. Et j'étais chef de meute d'un gang d'enfants. Et je sautais de rocher en rocher avec des arêtes aiguës sur et mes pieds tenaient. Et même encore maintenant, je me dis, mais comment j'ai fait? Et j'avais peur de rien. Donc, je comprends très bien cette espèce d'élan fou qui vous pousse.
Ouais.
Mais d'être dans le moment présent en se sentant complètement en sécurité.
Ouais. Oui, la sécurité.
C'est ça.
C'est le plaisir, justement. Il y a un plaisir à prendre des risques. Le plaisir et la peur sont toujours très très liés. C'est comme dans l'amour, quand on est attiré par quelqu'un, rien n'est plus excitant que de prendre un risque tout à coup, d'oser dire quelque chose qu'on ne ferait jamais. Voilà, c'est ça. Donc voilà pourquoi, comme Proust, qui éprouvait un grand plaisir à retrouver ses sensations d'enfant, c'est la même chose. Je pourrais vous en citer de nombreuses, parce que... Donc voilà, c'est remonter le temps. On n'a pas besoin de regarder... Mais c'est pas les films tellement que vous avez quelques films d'enfants. C'est vrai.
Alors ce livre, ce livre s'appelle « Tendre Maroc ». Pourquoi ce titre « Tendre Maroc » ?
Alors je cherchais un titre, on avait quelques idées avec mon éditrice, et puis bon, j'ai pensé à Tendre Stock de Morand, qui est très éloigné, qui n'a rien à voir de Paul Morand. Et puis comme ça, j'ai lancé à Anthony cette idée de Tendre Maroc, qui pour moi était évidente, parce qu'il y a beaucoup de tendresse dans ce livre, et que j'éprouve pour ce pays. Donc ça s'est imposé, ça nous a paru bien, juste.
Alors je vais te pousser un peu loin. Est-ce que cette tendresse marocaine, c'est ce qui vous a sauvé de la froideur d'un milieu bourgeois de l'époque, avec ses diktats ?
Moi, je ne le voyais pas comme un milieu bourgeois quand j'étais enfant. On était habitué à ça. C'est qu'après, c'est par contraste. C'est vrai que le fait d'être dans un pays comme ça, très olfactif, avec une sensualité un petit peu pas toujours très saine qui rôdait toujours autour, mais des sensations aussi quand même très très agréables tout le temps, beaucoup de plaisir, font qu'on n'est pas dans une éducation... j'aurais pas aimé, par exemple, rester avoir une éducation parisienne dans un collège parisien... du style...
Vous ne sauriez pas, en fait.
Du style Sainte-Marie, par exemple, qui est le collège où je suis allée en terminale, de mon arrière-grand-mère. Là, je pense qu'il y aurait certainement une part de moi qui n'aurait pas été développée, qui est la part imaginative. C'est le Maroc, et pour ma sœur aussi, qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup contribué à cette poésie que nous avons et cette part de faculté à l'imagination.
Une petite question rituelle pour terminer cette interview passionnante. Si vous pouviez murmurer un mot à l'oreille de la petite Emma de 10 ans qui grandissait au Maroc, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ?
Là, je lui dirais écris, Emma. Et confiance en toi. Voilà, fais ce que tu veux. Tu as tout pour toi. N'aie pas peur. Je t'aime, ma petite Emma.
C'est des bien jolis mots, je t'aime. Un immense merci, Emmanuel de Boisson, de nous avoir ouvert les portes de vos souvenirs et de ce tendre Maroc. Je rappelle le titre de votre magnifique roman, disponible dès maintenant aux éditions Calman Lévy, un livre solaire, nostalgique et profondément intime que je vous conseille vivement de glisser entre toutes les mains. Quant à vous, chers auditeurs, merci pour votre fidélité. Si cet épisode vous a fait voyager, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles ou plus, pourquoi pas, sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle page à tourner. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir Emmanuel.
Au revoir Angélique et mille merci pour cette rencontre, ces questions subtiles et ces mots qui m'ont beaucoup, beaucoup touchée. Merci de tout cœur.
Radio Altaïr, la voix des esprits éclairés.